Tzatziki.
Merci d'écouter RFI, les 8h30 à Paris et Brazzaville, 10h30 à Nairobi. L'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Nous serons à Bukavu dans un instant, la province du Sud Kivu dans l'est de la RDC. Province qui concentre désormais les combats entre les rebelles M23 soutenus par les forces rwandaises et l'armée congolaise. Bukavu, où la situation incertaine pousse certains habitants à commencer à faire des stocks. Dans ce journal également, l'Ouganda et le procès de l'opposant Kizza Besigye. Il doit reprendre normalement aujourd'hui, alors que la Cour suprême a estimé la semaine dernière que ce n'était pas à une juridiction militaire de le juger, lui qui est un civil. Et puis la Somalie, où le gouvernement de Mogadiscio et celui de la région du Puntland remercient les États-Unis après des frappes américaines contre des chefs djihadistes. Des combats se poursuivent donc dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, sont toujours à l'offensive. Hier, l'armée congolaise a annoncé le décès dans ces combats de l'un de ses officiers, le colonel Rugabisha, mort d'après le communiqué officiel après des affrontements au niveau de la localité de Niabibwe samedi, 75 kilomètres environ plus au sud. C'est Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, qui accueille des déplacés des combats et dont certains habitants, face à l'incertitude de la situation, commencent à faire des stocks. Reportage de William Bassimike.
Debout devant la porte d'un dépôt, Rosette veut se procurer de quelques sacs de farine pour sa famille.
Je suis en train de faire mon stock. J'ai déjà acheté de la braise, des haricots, de l'huile et maintenant de la farine. Nous avons un peu peur, mais nous avons confiance. Notre armée va battre le M23 et nous l'encourageons.
À cause de la guerre, Bukavu est privé des denrées alimentaires en provenance du Nord Kivu. Conséquence, les prix commencent à monter. Dans son dépôt, Jean-Jacques Biragui fait part de ses craintes.
Le prix de la farine va augmenter car elle provient de Goma, pareil pour les haricots. D'autres proviennent du Rwanda. Le lait de Goma devient de plus en plus rare, sauf pour ceux qui en avaient en grande quantité. La pomme de terre se vendait à 3000 francs, actuellement c'est 3500. Alors s'il n'y a pas un couloir ouvert pour le commerce, les prix vont augmenter.
Après avoir fini ses courses au marché, Lebon, 51 ans, jette son téléphone. Il accuse les réseaux sociaux de diffuser des fausses informations et s'adresse au gouvernement congolais.
Ce sont les réseaux sociaux qui créent la panique. Parfois on nous dit ceci, on nous dit cela. Moi je suis favorable à ce que l'on ferme les réseaux. Le président Tshisekedi doit les couper car nous avons besoin de silence. Il faut laisser l'armée se battre.
Dans son message à la société civile, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porusi, a exhorté les habitants à rester unis et à lutter contre la peur. Il appelle les Congolais à ne pas reproduire les erreurs du passé. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Et hier, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a reconnu, lors d'un entretien accordé à TV5 Monde, il a reconnu, je cite, qu'une grande partie de la ville de Goma était tombée entre les mains de l'armée rwandaise. Et il précise bien armée rwandaise, car pour lui, le M23 seul n'existe pas. Le Rwanda, par ailleurs, mis en cause également dernièrement par l'Afrique du Sud et par le Burundi, deux pays qui déploient en ce moment des troupes aux côtés de l'armée congolaise. Le Rwanda répond à Kigali, Lucie Mouillot.
Les forces de défense rwandaises défendent les frontières, elles n'attaquent pas les civils, affirme dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. Dénonçant les actions de la mission de la SADC en RDC, Kigali se dit cependant favorable à un sommet conjoint entre les pays d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est, Alain Mukuralinda, porte-parole du gouvernement.
Le Rwanda soutiendra toujours une position qui va dans le sens de la recherche de la paix par les pourparlers, par les négociations, à part peut-être le gouvernement congolais, tout le monde est convaincu que ce problème ne sera pas résolu par la voie militaire.
Dans un discours à Bujumbura, le président burundais Evariste Ndayishimiye alerte de son côté sur le risque de régionalisation du conflit, accusant le Rwanda, je cite, de préparer quelque chose contre son pays, des déclarations rejetées par Kigali.
Il oublie de dire qu'il participe déjà à la guerre aux côtés de FARDC et des Wazalendo et des FDLR.
le Burundi est déjà en guerre. C'est toujours des accusations qui viennent sans preuve, sans fondement. Le Rwanda devra se défendre si c'est nécessaire, mais le Rwanda n'a pas attaqué qui que ce soit.
Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont eux aussi appelé le M23 et les forces rwandaises à mettre fin à leur offensive à l'est de la RDC. Si Kigali n'a jamais admis apporter un soutien aux rebelles, le gouvernement parle de mesures défensives à la frontière. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
En tout cas, pour le chef de l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine, la situation à Goma doit être considérée comme une urgence de santé publique. Ce qu'il craint notamment, c'est une flambée des maladies. Il l'a dit aux dirigeants africains à qui il a adressé une lettre en fin de semaine dernière et il s'en explique ce matin.
Cette nouvelle guerre peut nous conduire vers une catastrophe de santé publique inimaginable. Goma, c'est la plus grande densité au monde et c'est une cité qui n'a pas d'infrastructures médicales en place, dont la population n'a pas accès aux services de base comme l'eau, l'hygiène, les toilettes et même l'électricité, où le virus de Mpox a muté pour devenir le variant 1B qui tue aujourd'hui et qui est sexuellement transmissible. C'est une grosse erreur qu'on sous-estime ces enjeux. Nous avons même des vaccins Mpox qui sont venus du Japon, 3 millions de doses que nous avons voulu envoyer à Goma. Mais aujourd'hui, à cause de l'insécurité, nous ne pouvons pas envoyer ce vaccin. Voilà pourquoi j'alerte les leaders. Je demande à nos leaders de me permettre d'avoir accès à ces vaccins et de les amener à Goma en toute sécurité. Si ce ne sont pas les balles qui vous tuent, ce sont les épidémies et même une pandémie qui va nous tuer.
Jean Kaseya, le chef de l'agence sanitaire de l'Union africaine, joint par Florence Maurice. Et notez aussi qu'à Kinshasa, la mission des Nations unies a décidé de faire évacuer de la ville les familles du personnel de la MONUSCO, la force de l'ONU. Décision annoncée hier après-midi, sans plus de précision, avec effet immédiat et pour une durée de 3 mois. Dans quelles conditions le procès de Kizza Besigye va-t-il pouvoir se poursuivre en Ouganda? Aujourd'hui, une nouvelle audience est prévue devant la cour martiale à Kampala pour cet opposant qui est un civil et qui est poursuivi pour des faits présumés de trahison. Si la question se pose, c'est que vendredi, la cour suprême ougandaise a estimé qu'il était contraire à la constitution de juger des civils par des juridictions militaires. Ce week-end, le président Yoweri Museveni et l'armée ougandaise s'y sont opposés. Précision et explication avec Willy Diallo.
Pour le président Museveni, toute personne armée mal intentionnée devrait être jugée devant un tribunal militaire, et ce, quand bien même la Cour suprême vient de déclarer cela inconstitutionnel. Le président a déclaré refuser d'abandonner un instrument de stabilité. Il a envisagé des ajustements à la loi ou à la Constitution, afin de permettre le maintien du système actuel. Vendredi, la Cour suprême a jugé « Toutes les procédures en cours impliquant des civils devant les tribunaux militaires doivent cesser immédiatement et être transférées aux juridictions ordinaires ». Une décision à laquelle s'est ouvertement opposée l'armée. Dans un communiqué samedi, son porte-parole Chris McKenzie a déclaré que Kizza Besigye ne sera libéré sous aucun prétexte avant son jugement devant la Cour martiale. L'opposant au pouvoir risquait la peine de mort devant le tribunal militaire. Frédéric Musisi, l'un de ses avocats, s'était dit satisfait de la décision de la Cour. « Tout ce qu'on attend maintenant, c'est la libération de Kizza Besigye », a-t-il ajouté. En ce qui concerne le président Museveni, l'avocat a prévenu que ne pas respecter la décision de la Cour suprême reviendrait à renverser la Constitution.
Wally Diallo, la parole aux victimes au Kenya. Hier, à Nairobi, la Commission kenyane des droits humains entendait notamment des personnes victimes d'enlèvement ou de harcèlement de la part des forces de l'ordre ces derniers mois. Ils ont raconté les pressions et les intimidations alors que depuis les manifestations antigouvernementales au mois de juin et juillet dernier, la commission estime que 89 Kenyans ont été enlevés et qu'à ce jour, 29 restent portés disparus sur place Alban Tiroir.
Leur histoire avait choqué le pays. Le militant Bom Jagi ainsi que deux frères, Jamil et Aslan Langton, ont été kidnappés le 19 août après avoir participé aux manifestations anti-gouvernementales. Portés disparus pendant 32 jours, ils ont depuis raconté avoir subi torture et intimidation et disent continuer de vivre dans la peur, Bom Jagi.
Le 5 janvier 2025, à 6h du matin, j'ai remarqué qu'une voiture noire me suivait lors de mon footing matinal. Pendant plusieurs jours, le même véhicule était garé près de mon lieu de travail. La même voiture a aussi été observé en train de surveiller Jamil et Aslan Langton à plusieurs reprises. En tant que survivants de disparition forcée, nous savons que l'État nous cible car nous sommes des témoins des enlèvements en cours, des actes de torture et du traumatisme qui en découle.
Des proches de personnes décédées ou portées disparues ont aussi pris la parole, comme Duncan Zalo. Le corps de son frère, Justus Mutumwa, vient d'être trouvé à la morgue de Nairobi. Il était porté disparu depuis le 16 décembre.
J'ai pris la parole publiquement pour demander sa libération. Et j'ai commencé à recevoir de nombreux appels menaçants me disant de laisser tomber. La personne au téléphone m'a prévenu que je risquais aussi de disparaître. J'ai vite remarqué que j'étais suivi par des individus que je suspecte aussi d'être des agents de sécurité.
La Commission kényane des droits humains a dénoncé hier un État qui semble, je cite, vouloir éliminer les témoins de la récente vague d'enlèvement afin d'empêcher toute procédure judiciaire. Alban Tiroir Nairobi, RFI.
Enfin, en Somalie, le gouvernement de Mogadiscio et celui de la région semi-autonome du Puntland, tous les deux ont confirmé hier que des frappes américaines avaient bien tué, disent-ils, des figures clés du groupe État islamique dans la région. La veille, c'est le président américain Donald Trump qui annonçait des opérations de son armée contre un responsable du groupe djihadiste et contre aussi d'autres terroristes recrutés sur place. À New York, la correspondance de Karine Oten.
Les deux gouvernements somaliens ont réagi hier en exprimant leur sincère et profonde gratitude à Washington après avoir confirmé que les frappes américaines sur les Mongolies avaient bien tué des figures clés du groupe État islamique. L'EI est moins présent en Somalie que les Chebab affiliés à Al-Qaïda, mais l'ONU a prévenu qu'il gagnait en influence et les forces du Puntland ont justement monté une opération le ciblant depuis fin décembre. Ces tueurs que nous avons retrouvés cachés dans des grottes menaçaient les États-Unis et nos alliés, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le dernier attentat signé État islamique sur le sol américain, c'était le 14 janvier à la Nouvelle-Orléans, quand un ex-militaire américain a fait foncer sa voiture dans la foule, fauchant 14 personnes. Il s'était revendiqué de l'EI. Impossible de savoir si cette opération conjointe, comme l'affirme Mogadiscio, avait été planifiée sous l'administration Biden. L'an dernier, les États-Unis ont déjà mené une attaque en coordination avec la Somalie et tué 3 membres du groupe État islamique. Karine Oton, New York, RFI.
À New York, où il est désormais 2h42. Pour toute l'actualité du continent africain, rendez-vous sur RFI.fr. Et pour l'heure, vous êtes avec Andréane Mellard pour la suite d'RFI Matin.